Gloire à Dieu. Je voudrais faire une courte lecture dans la première épître de l'apôtre Pierre, au chapitre 1er et au verset 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Gloire à Dieu. Voilà, nous ne sommes pas aux yeux de Dieu que peu de choses. Nous sommes, comme nous l'avons vu, plusieurs appellations le confirment, très proches de Dieu et Dieu est très proche de nous. Toutefois, si on tient compte de la manière dont nous vivons aujourd'hui, notre foi chrétienne, notre vie chrétienne, il est nécessaire de faire apporter quelques précisions à la manière dont nous nous comportons. C'est sûr que l'apôtre Pierre est inspiré quand il dit « Vous êtes le peuple de Dieu, nous le sommes par grâce, nous avons été sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est une chose acquise. Dieu ne revient pas sur sa parole. Et nous sommes donc au bénéfice du sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé à la croix du Calvaire une fois pour toutes. Nous sommes le peuple de Dieu. » Mais nous devons aussi considérer les choses dans l'ordre où nous sommes précisés. Ici, nous savons que nous avons été sauvés par la foi. La foi, c'est quelque chose qui ne vient pas de nous. Nous avons une foi qui nous a été donnée. Je pense que vous le savez. Dans la première de Pierre, ou la seconde, je ne me souviens pas exactement, c'est dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, il nous est dit ceci, que Dieu, que nous avons reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, c'est-à-dire une foi, comme Pierre l'a reçue, comme tous ceux qui sont cités dans la Bible comme des hommes de foi ont reçu, nous avons une foi de la même valeur, qui est capable des mêmes choses. Nous avons par exemple la foi qu'a eu Abraham. Quand Dieu lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice, il est parti pour le faire. Il avait la même foi que nous. Nous pouvons mesurer que cette dimension de la foi n'est pas ordinaire. Et parfois, si notre foi chancelle ou est quelque peu bousculée, ce n'est rien à côté de ce que Abraham a dû envisager, et il l'a fait, et comme beaucoup d'hommes de Dieu, cités dans cette parole, l'ont fait. Nous avons une foi, il faut la mettre en évidence, il faut l'utiliser. Elle nous a été donnée par Dieu, Dieu ne revenant pas en arrière, cette loi nous la possédons, chacun d'entre nous. Mais il y a plus que cela. Et je voudrais avec vous parler pour argumenter cette prédication de la vie des disciples de Jésus-Christ. Quand les disciples ont été rencontrés par Jésus et appelés, ces hommes l'ont suivi. Il nous est dit dans les récits que quand il a appelé un tel ou un autre, il a dit « Suis-moi », ils l'ont suivi. Ces hommes ont donc attaché une importance primordiale à la parole de Dieu, à la parole de Christ, et ils l'ont suivi. Ils ne savaient pas où ils allaient. Ils ne savaient pas ce que Dieu avait prévu. Le Seigneur poursuivait un but, mais les disciples ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils ont tout laissé, il nous a dit, et ils ont suivi Jésus. Pendant 3 ans et demi, ils l'ont vu agir. Ils l'ont écouté prêcher aux foules qui se pressaient autour du Seigneur. Ils ont vu des prodiges et des miracles. Ils ont entendu. Ils ont participé. Parce que Dieu les a fait participer. On voit que dans Luc 9 et 10, il a chargé d'abord les 12 apôtres d'aller délivrer des démons, d'aller guérir les maladies, de faire des choses extraordinaires. Et il a ensuite appelé 70 à qui aussi il leur a demandé de faire une action dans ce sens. Ils ont participé. Et pourtant, bien souvent, on nous raconte et on nous dit dans cette parole qu'ils avaient du mal à croire. À telle enseigne que nous voyons qu'il y en a qui se sont détachés du Seigneur. Ils se sont retirés. Ce qui signifie qu'on peut parfois être proche de Dieu, mais dans les difficultés ou dans les hésitations et l'inquiétude, nous pouvons être chancelants. Et l'attitude des disciples représente beaucoup ce que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'en fait, nous avons commencé comme des disciples. Nous avons entendu parler de Jésus-Christ, de sa parole. Nous nous sommes convertis, nous sommes fait baptiser. Et nous partions un peu à l'aventure. Hein, nous marchions par la foi. Et il s'avère que cela est insuffisant. Nous ne pouvons pas rester des disciples. Nous ne sommes pas destinés à rester des disciples. Nous sommes destinés à aller plus loin dans l'option que le Seigneur a prévue. Le but qu'il s'est fixé, c'est de nous amener bien plus loin. Et nous allons voir que les raisons sont évidentes. Quand le Seigneur a eu parlé pendant 3 ans et demi à ses disciples, un fait important s'est passé au milieu d'eux. C'est Jésus 14:30 qui le précise. Judas s'est retiré. Il dit dans l'évangile de Jean qu'il s'est retiré, il faisait nuit. Cet homme a été avec le Seigneur très proche de lui et pourtant il s'est retiré. Jusque-là, l'enseignement que le Seigneur a donné à ses disciples était un enseignement très général, qui encore ne faisait que préparer l'avenir. Mais à partir de ce moment-là, de Jean 14:30, nous voyons que le Seigneur, à quelques heures d'ailleurs de son arrestation, qui allait finir à la croix du calvaire, on s'aperçoit que l'enseignement qui est donné à ce moment-là, dans les 3 chapitres qui viennent, 14, 15 et 16, est un enseignement dont la densité spirituelle est considérable. Et cela ne s'adresse qu'aux disciples, parce qu'il faut qu'ils soient armés pour aller beaucoup plus loin. On s'aperçoit en particulier qu'il dira dans Jean 14, 12, on pourrait le lire, cela, ça vous permettra de suivre un petit peu. Il dira, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Il en fera de plus grandes. Pouvons-nous imaginer un instant que nous pourrions faire des œuvres plus grandes que celles que le Seigneur a faites? C'est quand même difficile, hein, parce qu'il a fait véritablement, lui, de grandes choses. Mais c'est Jésus qui parle. Et il faut savoir pourquoi. En partant de cela, et à partir de ce moment-là, l'enseignement devient particulièrement puissant. Dans Jean 14, 15, on voit de suite le ton qui est donné. C'est le point le plus important de ce passage. Si vous m'aimez, il y a bien un « si ». Si vous m'aimez. C'est-à-dire si vous m'aimez véritablement. Pas superficiellement. pas en façade, non, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On pourrait dire aussi, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Ou aussi, on peut dire, mettez en pratique ma parole. Voilà le sens de ce verset. Il est essentiel pour notre vie chrétienne. Si nous passons à côté de cela, nous passons à côté de tout. Donc il faut être très précis dans ce domaine. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dieu dans sa grâce, le Seigneur dans sa grâce, a prévu que nous aurions besoin de confirmation de ces choses. Parce que nous pouvons faire des efforts pour garder les commandements de Dieu, parfois c'est nécessaire d'ailleurs, tout n'est pas facile, et nous n'avons aucune manière de voir si cela est effectivement réalisé. Mais le Seigneur a prévu. Dans Jean 14, 27, il nous dit « Je vous donne ma paix ». Et avant, on voit qu'il dit « Je vous donne la paix », mais il précise « Je vous donne ma paix, la mienne ». La paix de Jésus se confirme dans nos vies par une attitude non équivoque, qui n'est pas une façade ou une superficialité, mais quelque chose de très profond qui influe sur notre vie de tous les jours, et c'est la démonstration que Dieu approuve notre volonté d'obéir. Nous sommes appelés à obéir, non pas par contrainte, mais spontanément, parce que nous croyons et nous voulons obéir. Une définition extrêmement précise pourrait être donnée autrement. Dans la vie, beaucoup de gens, en écoutant les choses de Dieu, disent « Je dois obéir, je dois faire quelque chose », mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu nous dit « Tu dois, dans ton cœur, avoir cette pensée précise, je veux obéir, donc j'obéis. » Dieu regarde à l'intention. Notre perfection, nous le savons tous, nous ne la trouverons pas sur la terre, et nous n'y parviendrons pas nous-mêmes. Mais quand il y a la volonté d'obéir réellement à Dieu, Dieu entérine cette décision et il nous donne sa paix. Sa paix devient réelle. Et elle se voit, elle se transmet autour de nous. Un homme paisible établi sur la parole de Dieu est différencié des autres. Il n'y a là-dessus aucune difficulté. Un homme qui a la paix de Dieu, en toutes circonstances, il reste paisible, parce que la paix de Jésus est irremplaçable. Et cela est destiné à des hommes qui sont là des disciples, mais comme nous, à ce niveau-là, nous sommes encore des disciples. Et il nous faut aller plus loin. Nous ne pouvons pas nous contenter de l'approximation. Les choses de Dieu sont oui ou non. Hein ? Il est bien dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tout le reste, ça vient du diable. Donc c'est oui, mais si ce n'est pas oui, c'est non. Donc, aux yeux de Dieu, nous avons une responsabilité, c'est d'être vrai devant Dieu. Notre nature ne doit pas changer. Notre nature n'est pas appelée à être transformée. C'est notre cœur qui doit être transformé. Et quand l'apôtre Paul disait aux Romains, au chapitre 12, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence », c'est une transformation spirituelle. Parce que ses disciples sont devenus des disciples transformés. C'est ce que nous aussi nous devons être. Mais ces disciples transformés, on le voit en suivant le cours de ces passages, que ce sont devenus des apôtres. Alors bien sûr, vous allez me dire, nous sommes loin d'être des apôtres. Mais Seigneur, que nous puissions être dans cette ligne spirituelle. Parce que c'est là où toute chose change pour nous. Rester dans notre système naturel, habituel, de considérer la parole de Dieu comme étant ce qu'elle est, et d'en faire une approche personnelle, c'est une erreur. C'est ce qui a donné naissance à toutes les déviations qu'il y a eu dans tous les siècles. Non, il y a une rigueur dans ce que Dieu dit, souple et facile, mais la rigueur, c'est le respect de la parole de Dieu, en toute totalité. C'est ça qu'il faut rechercher. Et dans ce passage, on s'aperçoit que les disciples ont des difficultés. Parce que même à ce moment-là, ils saisissent, ils voient ce que Dieu veut faire avec eux, mais ils ne comprennent pas tout. Et c'est normal, parce que le but que Dieu s'est fixé est loin de leur pensée. Mais nous non plus, nous sommes de ceux qui ne comprenons pas tout. Et nous avons besoin d'être mieux établis. Le fondement sur lequel le Seigneur nous a posé est un fondement qui est indestructible. Et nous devons nous y retrouver nous-mêmes d'une manière absolue. Nous ne pouvons pas être ou sur un côté ou sur un autre. Nous devons être à la place que Dieu nous veut, en conformité avec sa parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On retrouve dans la parole de Dieu bien souvent, sous des formes diverses, cette demande. Mais incontestablement, nous sommes dans cette situation. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Signifie que si nous obéissons, nous avons la paix de Jésus. Comme la foi, la paix de Jésus est dans notre cœur. Parce que dans notre cœur, il y a la place pour la foi et la paix. De toute manière, il y a suffisamment de place. Donc, il ne faut pas enlever l'un pour mettre l'autre. On peut prendre les deux. Et nous apercevons que, à partir de ce moment-là, après ce passage, on s'aperçoit que dans les chapitres qui viennent, là, pendant 5 fois, pratiquement répétitives, le Seigneur parle du Consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint. Il annonce à ses disciples la venue du Consolateur, la venue de celui dont il dira lui-même qu'il nous est avantageux que Jésus s'en aille pour être remplacé en quelque sorte ou suppléé par l'Esprit de Dieu. Vous rendez-vous compte de ce que cela représente, plus que Jésus. Mais le Saint-Esprit, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Et donc, il faut faire un effort pour comprendre, pour saisir, pour nous approcher de Dieu. Et on se rend compte que cela n'est pas toujours facile. Pourtant, c'est là une démarque essentiel de ce que sera pour les disciples, donc comme pour nous, après que le Seigneur soit revenu au ciel, le secours et le soutien qui ne manquera jamais aux disciples qui, transformés, sont devenus des apôtres. Le but que Dieu poursuit aujourd'hui pour nous, sans aucune prétention, c'est que nous devenions des apôtres. Si cela vous paraît un peu prétentieux, disons comme des apôtres. Mais dont le cœur a pris les dispositions des apôtres. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est à partir de ce moment-là que Dieu va faire de grandes choses sur cette terre. Le salut que le Seigneur avait proposé à l'origine des temps, après la chute d'Adam et Ève, va se concrétiser. Le Seigneur va repartir au ciel, mais l'Église va naître. L'Église de Jésus-Christ va naître. Et elle sera animée par la puissance du Saint-Esprit, présence indéfectible qui sera toujours là, toujours disponible et toujours prête. C'est à cela que les apôtres ont été appelés à participer. D'ailleurs, leur participation sera plutôt symbolique, parce qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Et ils ne font que profiter de ce qu'ils ont obéi pour voir et vivre ces choses. L'obéissance apparaît partout dans la Bible. D'ailleurs, elle y est à l'origine des temps, n'est-ce pas ? Quand Adam et Ève étaient dans le paradis terrestre, ils étaient dans une obéissance entière. Le Seigneur avait fixé des un cadre et il leur a dit, vous êtes dans ce cadre, vous êtes dans l'obéissance, vous avez tout pour vous. Ils étaient en des conditions de vie exceptionnelles. Qu'est-ce que c'est qui a fait qu'ils ont perdu cela ? C'est qu'ils ont désobéi. Or, nous vivons, nous, en tant qu'êtres humains, dans une forme de désobéissance. Elle est peut-être larvée, c'est-à-dire pas totale en tant que croyant, mais elle existe parce que nous sommes superficiels sur le plan spirituel. Et nous avons besoin d'approfondir notre position pour que nous soyons réellement obéissants. Une obéissance à Dieu, ce n'est pas quelque chose de difficile. Bien sûr, si on résiste, c'est difficile. Mais si on se donne à Dieu, si on décide de faire ce que Dieu nous demande, en fait, l'obéissance, c'est ce qu'il y a de plus facile. Parce que c'est dans la ligne de ce que l'homme naturel peut faire. Dieu n'a pas inventé des choses extraordinaires pour que nous puissions les réaliser avec difficulté. Non. Dans notre nature, il veut nous donner et il nous dit « Obéissez à mes commandements ». Voilà ce qui, aujourd'hui, doit caractériser le peuple de Dieu. Non pas ceux qui sont encore des disciples, bien qu'ils doivent se décider à obéir, mais aussi parce que nous sommes appelés, en tant qu'obéissants, à devenir, dans l'Église et dans le témoignage de l'Église, dans notre témoignage personnel, des hommes et des femmes de Dieu, qui ont quitté le lait spirituel pour prendre de la nourriture solide. On ne peut plus rester, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur une approximation. Nous sommes adultes, nous sommes engagés devant Jésus-Christ en notre foi et conscience, et maintenant, par la foi et au nom de Jésus, nous devons grandir, progresser, parce que Dieu veut nous proposer ce qui suit. Nous ne ferons que l'aborder aujourd'hui parce que ce serait trop long. Mais incontestablement, on s'aperçoit qu'il y a des choses extraordinaires qui arrivent. La position d'obéissance qu'ont pris les disciples se traduit va se traduire par l'effusion du Saint-Esprit. Ça, ils ne le connaissent pas encore. Ils vont le découvrir. Mais qui sait ce que Dieu nous réserve à nous ? Qui sait si nous obéissons, mais il va nous étonner. Il va faire des choses si merveilleuses et si grandes que nous serons bouleversés. Ce n'est pas un petit Dieu que nous avons, c'est le Dieu créateur et tout puissant. Nous n'allons pas rester des disciples. Il faut grandir. Ces hommes, ils ont vu la Pentecôte. La description, chapitre 2, elle est extraordinaire, nous n'allons pas l'évoquer maintenant, mais c'est absolument inconcevable à vue humaine. Comment aurait-il penser qu'il allait y avoir des choses pareilles ? C'est pas possible. Mais nous pouvons nous attendre à ces choses-là. De quelle manière, quand, comment, personne ne le sait. Mais si Dieu trouve chez nous des cœurs désireux d'être transformés, je suis sûr que Dieu fera en peu de temps de grandes choses au milieu de nous. Nous les verrons, nous les vivrons, et Dieu sera glorifié, et nous serons émerveillés. Est-ce que cela nous intéresse ? Ah, là, il y a la question. Si nous ne sommes pas intéressés, pourquoi y aurait-il avec nous de grandes choses ? Dieu ira ailleurs. Parce qu'il trouvera partout dans le monde des hommes, même sans foi ni loi, capables d'accepter Jésus-Christ et d'être de véritables témoins, des témoins authentiques. Et il veut le faire avec nous. Est-ce que nous mesurons la dimension dans laquelle Dieu veut nous faire vivre? Est-ce que nous sommes encore arrêtés parce que, bon, nous avons été baptisés, nous sommes convertis, nous sommes sauvés? Mais ce n'est rien, ça. Ça, c'est... Mais c'est énorme dans le sens du salut. Mais dans le sens de notre vie sur la terre, en tant que témoin, il faut voir autre chose. Qu'est-ce que nous pourrions voir si ce n'est la puissance de Dieu à l'œuvre? Voir ces lieux remplis de gens transformés par l'Esprit de Dieu. Des hommes et des femmes qui, venant ici, se trouvent être délivrés, guéris, sauvés. La puissance de Dieu qu'il y avait il y a 2000 ans, elle n'a pas changé. Elle n'a pas diminué. Elle est toujours la même. Et nous, est-ce que nous sommes de ceux qui, comme les disciples, veulent aller plus loin? Vous savez, la suite, elle est extraordinaire. Je voudrais vous citer une qu'on retrouve dans Acte 2, 39. Il est dit que la promesse est pour nous. Il est dit, la promesse, elle est pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui sont loin. Les familles chrétiennes d'aujourd'hui ont les mêmes difficultés que les familles non chrétiennes. Il y a de toutes sortes, des difficultés de toutes sortes. Il y a des enfants ou des parents non convertis qui sont perdus, sans espérance. Il y a des problèmes de travail, il y a des problèmes familiaux de toutes sortes. La promesse, c'est pour nous, pour nos enfants. Est-ce que Dieu veut faire quelque chose chez nous, dans nos familles? Est-ce que nous sommes persuadés qu'il veut le faire? Et si nous en sommes persuadés, est-ce que nous sommes prêts à être dans les conditions requises afin que Dieu intervienne au milieu de nous par des choses prodigieuses? Si nous sommes obéissants, tout devient possible. Tout. Tout ce que nous, qui nous dépasse. L'obéissance, ça devrait être un mot qui devait être affiché devant nos yeux en permanence afin que nous prenions conscience que notre relation avec Dieu dépend de notre obéissance. Et cela est valable pour les jeunes et les moins jeunes. Nous devons être obéissants. C'est un commandement de Dieu. Ça ne se contourne pas, ça ne se discute pas, ça se vit. Si ça ne se vit pas, c'est que nous sommes désobéissants. Mais si nous voulons obéir, voilà ce qu'il faut faire. Est-ce que nous sommes sensibilisés par cela? Est-ce que ce sont des paroles que vous entendez, que vous écoutez et que vous allez oublier? Malheureusement, l'être humain est porté à l'oubli. Mais là, nous parlons des choses de Dieu, des choses qui demeurent, qui sont éternelles. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous voulons obéir? Est-ce que dans notre cœur, nous disons déjà, je veux obéir? Je ne dois pas obéir. Non, je veux obéir. Je prends la décision d'obéir. Je crois que le Seigneur devrait nous le répéter chaque jour, d'une manière ou d'une autre, que nous puissions voir comme un flash. Obéissance. Obéissance. Parce que ce n'est pas une contrainte que Dieu nous propose. C'est la liberté. C'est la liberté en Christ. La liberté de voir les choses de Dieu et de les vivre. La Pentecôte, lisez-la et relisez-la. Vous allez voir les premiers versets de chapitre 2. Les chrétiens, les disciples transformés. J'allais dire chrétiens parce que, pas encore. Qu'est-ce qu'il faut? Vous regardez. Il n'y a pas Il n'y a pas dans le déroulement de la scène de la nouvelle de la Pentecôte une seule action où on voit la main des disciples intervenir. Tout est fait par l'Esprit de Dieu. Tout. Le vent qui vient, on ne sait pas d'où. Les langues de feu qui viennent sur chacun d'eux. Eux, ils sont assis. Hein, et tout à coup, il se trouve qu'ils parlent en langue. Ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, c'est confirmé par le parler en langue. Et à partir de là, que se passe-t-il? Eh bien, les foules qui, justement, ce jour-là, étaient à Jérusalem, sont attirées par ce bruit et sont confondues. Mais il n'y a aucune action des disciples. Ils ne font que voir avec des yeux émerveillés que Dieu agit. Là-dessus, l'apôtre Pierre va prêcher. Un homme qui n'était pas un orateur particulièrement brillant à ce qu'il est dit, bien qu'il parle d'une manière remarquable, mais inspiré par l'Esprit de Dieu, eh bien, il nous est dit que les personnes qui étaient là avaient le cœur vivement touché. C'est pas l'apôtre Pierre qui avait ça, c'est l'Esprit de Dieu. Et que se passe-t-il? Eh bien, là-dessus, on voit qu'il y a 3000 âmes qui se donnent au Seigneur. Voyez-vous, moi je suis un peu comme les enfants. Je crois que ces choses peuvent arriver ici, pareil. Moi je le crois. Et je m'applique à obéir. Je ne dis pas que je réussis tout le temps. Je suis un homme avec mes défauts. Mais je m'applique parce que je veux obéir. Parce que je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la puissance de Dieu sur la misère de nos vies, sur les difficultés qu'il y a. Je veux voir sur cette jeunesse un souffle de vie qui vienne, afin que l'Esprit les saisissant, ils soient de ceux qui peut-être à la fin des temps seront les témoins authentiques que Dieu cherche pour parler à ces foules qui se perdent, parce qu'ils seront animés de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça l'Évangile. L'Évangile d'il y a 2000 ans, il était comme cela. Des hommes ont accepté d'obéir et ils ont vu la transformation, non pas d'eux-mêmes, mais parce que l'Esprit agissait en eux. Aujourd'hui, où sont nos victoires? En Christ, certainement. Mais est-ce que nous nous emparons de ces victoires? Parce que nous avons besoin de victoires. Beaucoup de gens aujourd'hui, dans tout le monde, on le voit partout, on l'entend partout, sont des croyants, ils croient en Dieu. Ils croient en Dieu, une forme de Dieu parfois très fantaisiste d'ailleurs. Mais ils croient qu'il y a quelque chose, quelqu'un. Mais nous, nous ne sommes pas des croyants, nous sommes des chrétiens. Or les chrétiens, il est dit qu'ils sont comme Christ. Ce n'est pas un croyant, il croit en Dieu. Nous, nous sommes comme Christ. Nous sommes comme celui qui nous a sauvés, animés de sa puissance. Et nous voulons vivre la gloire de Dieu. C'est ça que je vous propose aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous retiendrez de ce que je vous dis. Mais ce que je vous demande instamment, c'est de reprendre ces passages, de les lire, de les méditer, de les partager avec ceux qui vous sont proches, de prier pour qu'il se lève au milieu de nous cette puissance et cette action du Saint-Esprit. Ce monde se perd, il n'y a aucun doute. Avec tout ce que l'on entend et on voit, ce monde se perd. Les conditions même sont remplies et pourraient permettre à Dieu de revenir. Quand on voit toutes les horreurs et les misères qu'il y a, insolubles humainement, c'est tout à fait possible. Mais est-ce que nous, nous sommes prêts pour voir peut-être la dernière Pentecôte, le dernier réveil? Vous savez l'origine des réveils? Ça a été quand des hommes ont compris leur défaut d'obéissance et qu'ils ont supplié Dieu d'agir, dans cela en se repentant et en revenant au pied de la croix. C'est là où Dieu a suscité des réveils. Et il y en a eu de puissants. Et pourquoi il n'y en aurait pas un ici? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'y oppose? C'est Dieu qui est le Tout-Puissant. Alors nos cœurs que nous étalons devant Dieu, comment sont-ils? Dieu les regarde, un par un. Il nous situe et il nous dit ce qui ne va pas, parce que Dieu nous le fait comprendre. S'il ne parle pas, il nous le fait comprendre. Confirmé par sa parole, nous savons où sont les progrès que nous avons réalisés. Mais si notre volonté est spontanée et se décide maintenant de régler ce problème en disant « Seigneur, je veux obéir », Dieu se charge de nous secourir et de nous aider. En fin de compte, on pourrait résumer ce que je vous dis de cette manière. La foi, le Seigneur nous l'a donnée. Nous l'avons. Si nous sommes obéissants, nous avons la paix de Dieu, la paix du Seigneur dans nos cœurs. C'est une assurance. Nous sommes à ce moment-là en présence des choses de l'Esprit qui vont se réaliser. Nous serons baptisés dans le Saint-Esprit. Et pour ceux qui sont déjà baptisés, le renouvellement dans le Saint-Esprit s'avère nécessaire. Ne croyons pas parce que nous avons des décennies de conversion que nous sommes arrivés au fait. Non, pas du tout. Et ensuite, partant de là, parce que nous obéissons, tout ce qui est spirituel peut s'accomplir. Dans le cas contraire, nous pouvons avoir une foi qui, s'il n'y a rien, s'altère, qui n'est pas très puissante. Si nous n'obéissons pas, la paix de Dieu ne vient pas sur nos cœurs et nous sommes toujours irrités, en difficulté, nous sommes inquiets, nous avons des choses que Dieu nous demande de liquider. L'Esprit de Dieu ne peut pas nous atteindre et nous entrons dans une forme religieuse qui ne sert strictement à rien si ça n'est qu'à nous empoisonner la vie naturelle. Dieu veut nous sortir de ça. Le maître mot, c'est obéissance. Que voulons-nous faire? Nous voulons ou nous ne voulons pas. Mais Dieu répondra à ceux qui veulent. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Dieu parle, il est dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que nous avons une chose à faire devant Dieu, chacun pour notre part, un état des lieux, et que si nous voulons voir la gloire de Dieu, eh bien il faut être dans les conditions requises, à savoir obéir au Seigneur. Je vous laisse sur ces pensées. J'espère que vous y réfléchirez, que vous en tirerez quelque chose de bon pour vous et pour les vôtres. Et Dieu sera glorifié, parce que si nous progressons, l'Église va progresser. Il n'y a pas d'Église sans les membres. Donc nous formons le niveau spirituel de l'Église. Aujourd'hui, il peut être plus haut, il peut être plus grand, il peut être plus puissant, si nous le devenons par la grâce et la miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Seigneur, c'est en toute humilité que nous nous présentons devant toi, te demandant, mon Dieu, dans ta bonté insondable et dans ta miséricorde, d'avoir pitié de nous. Car c'est vrai que bien des choses, mon Dieu, ont accaparé notre vie et que nous n'avons pas toujours, mon Dieu, accepté de t'obéir. Seigneur, à la lumière de ta parole, nous ouvrons les yeux et nous voyons, mon Dieu, combien les choses qui viennent de toi sont extraordinaires et qu'elles sont accessibles à des êtres tels que nous, dès l'instant, mon Dieu, où que nous voulons accepter l'obéissance. Seigneur, exauce-nous, soutiens-nous, secours-nous. Mon Dieu, que nous puissions, mon Dieu, voir des progrès dans nos vies, des signes évidents de ton approbation pour nous encourager et nous permettre, mon Dieu, d'accéder à ce qui, mon Dieu, aujourd'hui encore, demeure, mon Dieu, le problème majeur de ceux qui t'appartiennent. Seigneur, nous voulons être trouvés debout au ton retour. Nous voulons, mon Dieu, être animés, mon Dieu, par l'Esprit de Dieu. Nous voulons, mon Dieu, vivre par la foi. Nous voulons saisir, mon Dieu, les victoires. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, manifeste-toi. Que ton Esprit, mon Dieu, vienne sur nous. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous n'avons aucune valeur, mon Dieu, mais nous croyons que toi, Seigneur, tu es celui qui enrichit, qui bénit au-delà de toute expression. Tu es celui, mon Dieu, qui agit. Tu es le Dieu amour, l'ami fidèle et tendre, qui veut faire avec nous de grandes choses. Mon Dieu, aie pitié de nous, Seigneur, et aide-nous à devenir des hommes et des femmes de Dieu, cela pour l'honneur et la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.